On est toujours en direct du 6e festival Terre de Bulle à Langeac. Je suis en compagnie de Benjamin Adam. Benjamin Adam, bonjour.
Bonjour.
On va parler un petit peu de tes œuvres, de toi et notamment de l'Artiguier Prévert sélectionné cette année à Angoulême. Première question, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours de tes débuts jusqu'à aujourd'hui?
Alors, pour commencer, j'ai fait des études d'art appliqué et des études pour devenir graphiste, donc pour faire de la communication et de la publicité. J'ai travaillé là-dedans pendant 2 ans. J'avais un plan terrible qui consistait à devenir graphiste pour gagner de l'argent et à prendre le temps le soir de dessiner pour devenir dessinateur. Je me suis vite rendu compte qu'en travaillant à plein temps comme graphiste, j'avais pas le temps de dessiner quand je rentrais et j'en avais surtout pas envie, donc j'ai arrêté et j'ai repris des études. Je suis rentré aux arts décoratifs de Strasbourg en 2007, où j'ai passé 3 ans avant d'être diplômé par la suite. Et depuis, je suis pas rentré en 2007, je suis rentré en 2005 et je suis sorti en 2007. Et depuis, donc, je suis illustrateur, auteur de bande dessinée à plein temps, tout le temps.
Jusqu'à présent, tu as œuvré aussi bien dans la BD entre guillemets jeunesse que dans des choses bien plus matures, notamment ton Artigue et Prévert. Est-ce que c'était une envie dès le départ? Est-ce que tu avais cette envie-là de toucher ces publics particuliers, ou est-ce que c'est entre guillemets l'occasion en se présentant, tu t'es jeté sur ces projets-là?
Non, pour que ce soit simple, moi j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée plutôt pour adultes. Il se trouve que j'ai plutôt la chance d'avoir un dessin assez malléable pour se prêter aussi à de la jeunesse, et que en sortant de l'école, c'était une façon assez simple de à la fois vivre de mon dessin et puis en même temps découvrir ce milieu-là qui permet d'apprendre des choses. Le milieu de la commande en jeunesse, je pense pouvoir dire maintenant qu'on en fait relativement vite le tour en termes de format, de préoccupations, de critiques aussi. Mais malgré tout, ça m'a fait mettre le nez dans des domaines que j'aurais pas forcément été explorer tout seul, quoi.
Ok. On va parler un petit peu plus de l'Artiguier Prévert, sélectionné justement, qui était prétendant au titre du Polar SNCF à Angoulême, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce livre, nous présenter ta dernière sortie?
Alors, l'Artiguier Prévert, ça fait partie des projets que j'ai présentés à mon diplôme des arts déco en 2007. Ça découlait d'un exercice d'école qui consistait à adapter une nouvelle en bande dessinée. Donc moi j'étais parti à l'origine sur Journal d'un tueur sentimental de Luis Sepúlveda. J'ai pas du tout mené à bien l'adaptation, c'est resté un exercice, mais il y a des figures et des personnages et un ton dans cette nouvelle là qui m'ont marqué, et un ou deux ans plus tard j'ai fait une petite histoire à moi qui par ses personnages pouvait être dans la filiation de cette nouvelle. C'était d'abord une histoire de 3 pages que j'ai retravaillée pour mon diplôme et que j'ai retravaillée 1 000 milliards de fois depuis, et pour aboutir en début 2011 à une version du scénario qui me convenait et que j'ai réalisé entre 2011 et 2013. Ça c'est vraiment pour le côté technique de tout ça, ça parle pas du tout du livre, ça qui est bien. Pour être un petit peu plus complet sur le contenu, l'Artigue et Prévert, donc c'est le nom des 2 personnages principaux. C'est 2 hommes qui vivent dans le nord de la France, pas loin de la frontière belge. L'histoire se passe dans les années 75, sous Giscard. C'est 2 hommes qui ont l'habitude d'arrondir leur fin de mois en allant chercher des cigarettes en Belgique et en les revendant en France. On parle d'une époque où il y avait encore une différence de prix vraiment significative. Je crois que c'est un peu moins le cas maintenant. En tout cas, l'histoire commence quand la voiture qu'ils utilisent pour aller chercher des cigarettes, qui leur est fournie par 2 types qui y travaillent, n'a pas un coffre vide pour mettre des clopes, mais a un coffre rempli d'un homme, un jeune homme qui est en train d'agoniser. Et tout de suite, la décision qu'ils prennent tous les deux, c'est de se débarrasser de cette bagnole et de prendre le train pour aller se mettre au vert, pour réfléchir, pour se calmer et pour voir quoi faire. Et c'est là que vraiment l'histoire commence. Parce que ces 2 hommes, ils sont amis, ils vivent quasiment ensemble depuis quelques années. Et quand cette grosse tuile survient, ils n'ont pas la même façon de réagir. Il y en a un qui veut régler les choses et qui veut rentrer, qui a son gamin, son ex-femme sur place. Et pour l'autre, il est hors de question de rentrer, et il considère que ça ne le regarde pas. Et veut commencer quelque chose de nouveau.
D'accord. Petit point qui était déjà très intriguant, le titre et le nom des personnages, Lartigue et Prévert, un photographe français et bon, Prévert, poète et scénariste qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix de ces noms ?
Alors à l'origine, j'avais vraiment très envie de faire une histoire qui soit une sorte de road movie, mais en France. J'avais du coup envie que les noms des personnages ne laissent pas d'ambiguïté sur l'endroit où ça se passe, que ce soit vraiment des noms très français. J'avais pas non plus envie de les appeler Durand et Dupont. Et il se trouve qu'au moment des premières versions de l'écriture du scénar, j'étais en train de lire une autobiographie de Jacques Prévert, qui est un bouquin vraiment super intéressant, un personnage très complet, très présent sur tout le siècle, vraiment très fort, et que je venais d'emprunter un bouquin de photos de Lartigue. En fait. Donc en fait, c'est tout bête. J'ai, pendant pas mal de temps après, cherché un moyen de presque de me donner le droit de garder ces noms-là en trouvant une raison. Parce qu'il y en est, peut-être qu'il y en est un des deux qu'on appelle Prévert parce que il avait un côté poète, ou que puis en fait, j'ai tellement rien trouvé d'intéressant que j'ai pris le parti de pas le justifier, de me dire bah voilà, il s'appelle comme deux hommes connus, mais c'est deux inconnus.
Ok. Bon, bah écoute, c'est une belle explication. on voit dans ce titre, au niveau de ton travail, il y a un choix déjà qui a été fait d'une bichromie plutôt bleu-noir sur la quasi-totalité des pages, avec justement quelques scènes où le rouge devient omniprésent et éventuellement quelques planches qui justement vont être très graphiques, très aérées, avec quelques cases éparpillées de ci, de là. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces choix graphiques pour cet album ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que ce projet, dans ses multiples versions, n'a pas du tout eu cette forme dès le début, quoi. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé, on va dire, à partir de 2007, comme on disait plus tôt. Il y a eu une grosse pause qui a duré 2 ou 3 ans pendant laquelle j'ai pas du tout remis le nez dedans. J'ai travaillé sur d'autres trucs, j'ai fait de la jeunesse et surtout j'ai travaillé dans le journal Lapin à l'association. Et là, j'avais commencé un feuilleton qui sortira bientôt d'ailleurs en livre avec la pastèque aussi, qui était tout en noir et blanc et qui était le reflet de ce que je lisais à ce moment-là. Donc beaucoup d'auteurs américains, et ça a développé beaucoup d'envies graphiques et narratives, notamment lors du chapitrage. Voilà, des choses qui m'ont toujours intéressé, mais que là j'avais envie de mettre vraiment en avant graphiquement pour aussi utiliser la typographie, qui ouais, c'est un autre domaine qui m'intéresse beaucoup. Et quand j'ai commencé à reprendre Lartigue et Prévert, je savais que c'est un projet sur lequel j'allais passer beaucoup de temps. J'avais vraiment envie de rien m'interdire, et je voulais mettre dans ce livre-là tout ce qui me faisait envie, narrativement comme graphiquement, et en étant en plus persuadé que, comme c'était un livre à enquête, ça me permettrait très facilement de jouer sur le découpage, sur le dévoilement progressif de l'intrigue, et qu'en fait, avoir des petits changements dans le graphisme, dans le découpage, ça pourrait que servir l'intrigue.
C'est une raison qui est valable.
Quitte à être complet, comme je savais que c'est un projet qui allait être long, je voulais ne pas ennuyer le lecteur et je voulais pas trop m'ennuyer non plus. Je savais qu'il y aurait beaucoup de pages, que plus les séquences seraient différentes et plus moi j'aurais l'impression de faire quelque chose de différent tous les jours.
D'accord. C'est vrai que du coup on est sur quelque chose qui est conséquent au niveau de la pagination. Il y a cette. Ce qui est marrant, c'est que voilà, a priori on a le même âge, donc les années 70, tu n'as pas forcément connu. Et pourtant, voilà, on se retrouve vraiment dans une ambiance très 60s, 70s. Tu t'es beaucoup documenté, tu t'es imprégné de peut-être de livres, de films. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu as réussi à recréer cet univers-là et à faire qu'on soit vraiment en immersion dans cette époque que tu n'as a priori connue que par le biais de choses qui t'ont été rapportées, soit verbalement, soit par l'écrit, soit par la télé.
Alors c'est vrai que j'avais très envie de, ne serait-ce que pour des raisons narratives, que l'histoire se passe avant le téléphone portable. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore lu le livre comprendront rapidement qu'il est beaucoup question d'une cabine téléphonique et il est beaucoup question d'isolement. C'est quelque chose qui me paraissait plus compliqué à créer comme contexte aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Après, sur le, réellement la somme de documentation, d'influence, c'est forcément très divers. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire se passe dans une maison qui est située dans un petit bled à la campagne. Cette maison est très très inspirée de la maison d'une de mes grand-mères, qui est évidemment dans un petit bled à la campagne, dans les Ardennes. Et c'est une maison, quand j'étais petit, moi j'ai trois frères, et avec mes frères, on avait l'impression quand on y allait que c'était un endroit qui changeait jamais. Et quand on y retourne encore aujourd'hui, c'est l'impression qui domine. C'est que c'est un endroit où le temps s'est arrêté un petit peu, et où, comme dans beaucoup de maisons qui sont habitées depuis des années par les mêmes personnes, et elle est pleine de bibelots, pleine de souvenirs de voyage, et pleine de vaisselle, de fringues, de témoignages des décennies passées, quoi. Donc, ne serait-ce qu'avec la présence de cette maison, j'avais pas besoin d'aller chercher très loin. Après, au-delà, moi, j'ai fait appel à toutes sortes de sources de documentation comme on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de film ou de livre particulier. Là, on parle vraiment de visuel. Mais c'est sûr que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à rassembler de quoi nourrir cette époque-là pour pas me faire prendre en défaut trop facilement par des gens qui ont vraiment vécu en 74, quoi, qui me disent pas bah, t'es mignon, mais ça se voit que t'es trop jeune pour avoir connu, quoi.
Tour de force a priori réussi. Bon, moi non plus je n'ai pas connu les années 70, mais j'ai pu avoir beaucoup de retours sur le livre et de gens justement qui ont connu ces époques-là dans leur belle jeunesse et la vingtaine, et qui étaient subjugués justement de retrouver cette ambiance-là. Peut-être as-tu on va conclure l'interview. Peut-être as-tu des projets justement en cours de nouveaux albums. Alors histoire plus adulte ou peut-être projet jeunesse.
Alors déjà, il y a un projet un petit peu plus ancien que l'Artiguet-Prévert qui vient de ressortir à la Pastèque, qui s'appelle 2 mg, qui est un journal d'arrêt de la cigarette que j'avais fait en 2007, donc quand j'étais encore à l'école, qui vient de ressortir. Dans la suite des choses, je suis en train de faire les dernières pages du projet que je faisais dans Lapin, dont on parlait un petit peu plus tôt, qui n'a pas encore de titre, mais qui est un feuilleton noir, qui est tout en noir et blanc, et qui a été à l'origine de l'Artiguet-Prévert, en tout cas graphiquement, narrativement, de plein d'envie, quoi. C'est une histoire évidemment qui est tout autre, et ce sera un livre avec a priori un peu plus d'humour noir que ce qu'il y avait dans l'Artiguet-Prévert. C'est un peu moins réaliste. C'est un projet où le récitatif, la voix off, a une place importante. Et voilà, théoriquement ça devrait paraître en janvier prochain. Et sinon, je fais toujours un petit peu de jeunesse, mais sans avoir de projet précis. Je travaille sur une série qui paraît chez Gallimard, qui s'appelle Bertus. Et c'est pour les plus jeunes lecteurs, quoi. C'est pour les 8-9 ans. Et c'est une histoire de hamster agent secret. Et sinon, je suis en train aussi de travailler pour la revue dessinée, sur un reportage qui s'attache beaucoup aux empreintes toxiques et à la petite ville d'Unieux, à côté de Saint-Étienne.
D'accord, bon, mais a priori du coup une actualité en tout cas au niveau du boulot assez chargé. Mais écoute Benjamin Adam, je te remercie justement de nous avoir accordé ce moment pour cette interview. C'était Yo pour Onda Bulle 93.3 FM Clermont-Ferrand. Merci beaucoup.
Merci.